Ras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai. Je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil.
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dore. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltiges palpitants encore.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Oui, j'ai un chat dans la gorge et je vous souhaite une bonne année. Vous êtes bien sur la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et comme chaque premier dimanche du mois, notre émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet. Nous sommes toutes des membres d'Adoc. Nous avons Lounès Cazenave à la technique et pour animer cette émission, Anne Galland. Bonjour Anne.
Bonjour.
Bernadette Mirbier.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous accueillons un réalisateur, Bastien Simon. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Et deux réalisatrices, Anne-Sophie Biraud et Laetitia Douane. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et celle qui a la voix cassée au micro, c'est Mélanie Trachler.
Merci, oui. On va tenir comme ça. Donc aujourd'hui, les films respectifs, ce sont Les Grands Voisins, La Cité Rêvée de Bastien et De Rêves et De Parpaings pour Anne-Sophie Biraud et Laetitia Douane. Donc, ces deux films partent tous deux de collectif, de construction et d'utopie. Donc, on commence bien l'année, on est content. C'est des chouettes chantiers. Pour commencer, moi, je vais dresser un petit portrait des réalisatrices. Donc, Anne-Sophie Biraud et Laetitia Douane, vous vous êtes bien rencontrées pendant les préparatifs du chantier, n'est-ce pas ?
Oui.
Et Laetitia, toi, tu étais assistante monteuse à Bruxelles. C'est oui. Ton premier film.
C'est ça, tout à fait.
Tu es la nièce d'une des enchantières, Chantal.
Oui, c'est comme ça que j'ai entendu parler du projet.
Et donc, quand tu es arrivée, tu as rencontré...
Anne-Sophie, qui voulait aussi faire un film sur les sur le chantier des enchantières. Et on s'est rencontrés avec cette envie de toutes les deux faire un film.
Toi, tu étais menuisière en plus, non ?
Et moi, je commençais à me former comme menuisière à ce moment-là.
Donc, tu avais un plus par rapport à Anne-Sophie, qui a dû adhérer aussi et...
Adhérer.
Bah, tu as fait partie des enchantières.
Oui, ça c'était la condition. En fait, à la base, moi je connaissais Chantal aussi, qui était une amie. Et j'ai approché les enchantières parce qu'il y avait ce projet de construction d'un grand atelier sous la forme d'un chantier participatif où beaucoup de femmes allaient venir. Et j'ai proposé aux enchantières de faire un film, et Laetitia aussi de son côté, et elles nous ont dit non dans un premier temps. Donc après, comme on est un peu têtu, on a essayé de les convaincre. Et puis voilà, l'idée a fait son chemin, et à un moment donné, elles ont dit d'accord en nous posant une condition qui était que on ne filme pas les choses de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et pour bien les connaître, la condition c'était qu'on participe au chantier. Donc c'était a priori, enfin surtout pour moi, une contrainte qui est devenue au final un atout puisqu'on était plus proche des personnes et on était du coup vraiment en immersion.
Je vais revenir un petit peu sur ton parcours. Toi, c'est pas ton premier film en fait.
Non.
Donc toi, tu es diplômée de l'IEP de Grenoble et de la FEMIS au département scénario.
Oui, c'est ça.
Tu as réalisé deux fictions,
oui.
Une vague idée de la mer et Les filles ne savent pas nager. Ça, c'était coécrit avec Christophe Honoré.
Le deuxième, oui.
Donc, tu as fait plusieurs documentaires sur les violences sociales sexistes, comme Les violeurs d'Aurore en 2004, ou encore La route avec elle, que j'ai vue, qui est visible sur Vimeo. Ça, c'était en 2009, non ?
Oui.
Donc là, c'est... c'est un film où tu suis aussi un collectif. C'est un collectif de mamies résistantes rescapées de Ravensbrück. Il s'agit de femmes, comme dans De rêve et de parpaing, qui relate la construction du local des Enchantières, dont on a dit un petit peu, une bâtisse de 100 mètres carrés.
Oui, c'est ça.
À Montreuil. C'est un grand chantier participatif, ouvert à toutes les femmes, débutantes ou non. L'objectif est de permettre à chacune d'acquérir des savoir-faire. Et c'est, en fait, l'expérience, elle se réinvente. C'est magnifique de toutes les voir en mouvement, construire des conditions. En fait, vous allez m'aider pour le résumé. Vous avez suivi toutes les pérégrinations pendant combien de temps ?
On les a filmés pendant 2 ans et puis on a préparé aussi en filmant une réunion par mois, je crois 1 an avant hein, quasiment. Donc c'était un projet qui a été qui a une longue durée de tournage quoi.
Et donc les femmes en fait, toutes ces enchantières, elles sont engagées, elles viennent par roulement sur leur temps libre.
Oui, en fait, il faut expliquer que les enchantières préexistaient à l'histoire de la construction du chantier. C'était un collectif de femmes qui déjà transmettaient des savoirs dans le domaine du bricolage et de la construction. Il y avait des ateliers qui se déroulaient le dimanche dans des salles qui étaient prêtées par la municipalité. C'était souvent des salles différentes. Et de là est né le besoin d'avoir un lieu fixe. Et l'idée et l'envie de le construire, en fait. Et donc, le principe de ce chantier, c'est que les femmes qui avant venaient apprendre dans les ateliers du dimanche viendraient participer au chantier et apprendre tout un tas de choses qu'elles pourraient réinvestir chez elles, mais en construisant cette bâtisse.
On va écouter un extrait, comme ça nos auditeurs vont mieux comprendre. Comment ça se passe ? À l'image, donc, on voit des enchantières, elles sont 3. C'est lors d'une pause, elles sont en train de manger. Donc, Lounès, le premier extrait, s'il te plaît, merci.
Tu vois, la bulle, il faut vraiment qu'elle soit au milieu, quoi.
Ouais.
Et là, il y en a qui sont un peu à droite, un peu à gauche.
T'en as pas ?
Je vais faire un stylo. Non, on va faire un stylo.
Un stylo, ça peut t'aller ?
Ouais, je vais marquer avec les... Je suis en train de ton stylo. Ouais.
Ce qu'il faudrait qu'on aille voir, c'est des fournisseurs pour qu'ils nous filent du matos.
Donc démarcher des fournisseurs avec un dossier de présentation.
Ouais.
Pour récup de...
Tu vois, par exemple, les EPI, les gants, là, ça leur coûte rien. Nous, ça nous coûte et on en a besoin, là, parce que...
Eh ben, on se prépare un petit dossier type voilà, pour ça. Présenter l'assaut.
J'ai commencé, je peux te le montrer si tu veux, mais je crois qu'il va pas.
Je dis, il y a un problème, on est sur le problème et je me retrouve... seule à gérer le truc, Laetitia est arrivée, enfin tu vois, vous parlez d'autre chose, moi je me suis sentie mal, en fait, voilà. Je dois le dire, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, 2 équipes à part, et là c'est un problème qui concerne tout le monde. On a commencé à regarder tout ensemble, elles ont été rectifiées, puis tout d'un coup, toi t'es partie.
Je pensais que tu réglais le truc avec Laetitia, que vous vous concentriez toutes les deux, parce que vous êtes plus expertes et que... Voilà, non. Je pensais que ça allait se régler.
Je rêve avec tout le monde. Ouais. Même moi, je suis embêtée. Parce que même moi, il y a des moments où je ne sais pas comment faire. Je veux dire, ce n'est pas une histoire d'expérience. Il y a un truc, tu te dis comment l'aborder. Ouais. Et il y a des moments où tu te dis, moi, est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais ça ? Est-ce que vaut mieux ça ? Est-ce que...
Ouais.
Là, franchement, j'hésitais. Je cherchais, en fait. Je n'avais pas la solution.
Ouais.
Parfait. On relève, t'inquiète. Hop. Donc là, je ne le sers pas. Je vérifie d'abord... Écoute, ici on est pas mal. Hein. Tu peux le serrer et on peut le mettre en place. Par contre, on va mettre. Là, on n'a pas regardé encore une fois.
Je refais un quatrième
tour. Ouais.
Donc, on se rend un petit peu compte de l'ambiance du chantier. Effectivement, ils sont une quinzaine dans le chantier. Et ça fonctionne sur le partage de responsabilités et surtout sur le principe d'horizontalité, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a donné toutes les deux envie de parler de ce collectif ? Comment ça a été quoi le déclic sur ce film ?
Alors moi, je fais de la menuiserie et je travaille le métal aussi. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire et que je connais aussi le milieu du bâtiment qui est un milieu très masculin. Et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je les rencontre, que je participe au projet d'une manière ou d'une autre. Et puis par ailleurs... je me suis dit, il faut, ça va être un grand chantier, enfin, il faut le filmer, quoi. Je sais pas, mais c'était évident qu'il fallait filmer ça, et au niveau de l'horizontalité, de le fait qu'il y ait des personnes qui soient vraiment débutantes, qui soient intégrées à la construction, je trouvais que c'était un très beau pari, quoi. Et je me suis dit que ça allait être des très belles relations aussi à filmer, et aussi aussi une façon de une façon d'apprendre en faisant, quoi. Je trouvais que c'était hyper intéressant.
En même temps, t'apprenais aussi à faire un film, toi.
Et moi, j'apprenais à faire un film.
Et donc pour Anne-Sophie.
Alors moi, j'ai eu tout de suite l'intuition que ça allait être très cinématographique, en fait, parce que on a découvert le terrain nu. Il y avait quelques grandes herbes dans lesquelles les enchantières allaient mesurer pour voir si on pouvait construire un bâtiment dessus. Et j'ai imaginé que le bâtiment, il allait grandir dans le cadre de la caméra, en fait. Et qu'il allait avoir beaucoup de femmes, on en a vu plus de 200 finalement en tout, qui allaient venir construire à différentes hauteurs sur différents plans. Donc il y avait quelque chose de l'image qui pour moi était très très fort. Et puis sur le fond, je crois que c'est un collectif de femmes qui fait de la place aux femmes là où elles en ont pas, pour moi c'était quelque chose d'absolument essentiel, et d'autant plus qu'elles leur donnent pas une place d'apprenante, comme s'il y avait celles qui enseignent et puis les autres qui viennent apprendre, mais cette horizontalité là qui porte en fait tout le monde, et même celles, et j'en ai fait l'expérience parce que moi je n'y connaissais rien du tout, quand on arrive et qu'on prend des outils et qu'on les a jamais utilisés, vous êtes porté, en fait. Vous êtes encouragé à faire. On vous dit pas, faut faire comme si, mais non, tu devrais faire comme ça, tu fais mal. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On vous laisse un petit peu chercher et on vous encourage, en fait. Et ça, c'est rare pour une femme de pouvoir le faire, et surtout dans ces conditions-là. Et donc, pour moi, ça, c'était vraiment très important. Et puis, je dirais aussi que faire un film sur des femmes qui manient des outils et qui construisent, ça change les représentations. Voilà, pour les personnes qui le voient.
C'est effectivement. Je vais laisser Anne, à mon non plus avoir de voix du tout, raconter l'autre film.
Donc, Mélanie vient de vous présenter Anne-Sophie Biraud et Laetitia Douane pour leur film De rêve et de parpaing. À mon tour, je m'adresse à Bastien Simon, qu'on reçoit pour son film Les grands voisins, la cité rêvée. Alors quelques mots sur toi, Bastien, tu me corrigeras parce que je pense que c'est très difficile de te résumer, même si tu es encore très jeune.
Je vieillis un peu avec le temps, quoi.
Voilà, mais en fait, comme ce film date de 2020 et a été ton premier film de long métrage documentaire, voilà, donc tu avais déjà fait beaucoup de choses avant, mais dans beaucoup de formes. En fait, je dirais que tu es un artiste protéiforme.
Ouais, on va dire ça comme ça.
Auteur, réalisateur, décorateur, artiste plasticien, né à Nancy en 1987. Tu vis et travailles à Paris depuis 2012. Tu es l'auteur de films hybrides, mélangeant fiction et documentaire, reconnu et primé dans différents festivals. Tu travailles seul ou avec d'autres artistes sur de la fiction fantastique, un film d'animation, une bande dessinée, et sans doute beaucoup d'autres choses depuis que ce que j'ai pu lire ou apprendre. Depuis 2020, tu développes aussi un projet personnel d'œuvres en papier découpé, Les Petits Théâtres, qui comporte à ce jour près de 150 œuvres originales. Tu interviens dans des ateliers de fiction, documentaires ou encore d'art plastique. Tu es membre de jury pour des résidences d'écriture, des festivals, etc. Donc aujourd'hui, c'est à propos du film « Les grands voisins, la cité rêvée » qu'on t'a invité. Ce film, il est sorti en 2020, mais tu l'as entrepris des années avant. Je vais avoir un peu de mal à le résumer, mais un peu comme pour le collectif des enchantières que filment Anne-Sophie et Laetitia, toi toi aussi, tu filmes un collectif, tu t'embarques dans un projet collectif. Mmh. En fait, il y a d'une part les grands voisins, qui sont quelque chose qui a été mis en place sur l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui est détruit, et sur lequel, pendant 2012, l'association Aurore a installé des hébergements d'urgence pour des gens qui venaient de partout, en grande détresse, mais pas seulement français, enfin, hein, SDF, migrants, voilà. Et il y avait 600 personnes. Il y a eu 600 personnes hébergées, accueillies par Aurore dans cet ancien hôpital qui s'est arrêté de fonctionner à peu près en même temps, si j'ai bien compris, mais voilà, ça, il était à vocation d'être détruit pour la construction d'un éco-quartier.
C'est ça.
Qui est
toujours en construction.
En construction, mais qui effectivement, le projet est toujours là, quoi.
C'est, oui, c'est
toujours, s'est pas arrêté, ouais, mais voilà. Mais votre occupation éphémère, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est utopique, parce que c'est magnifique, effectivement, cette histoire dans laquelle, à laquelle tu vas participer, toi. Je pourrais lire ce que tu as écrit, qu'en 2015, après les attentats à Paris, ben voilà, les politiques réfléchissent un peu, comment faire un peu plus de liens, pour comment essayer d'endiguer les violences. Et donc, imagine de faire appel, de lancer un appel d'offres à des associations, des start-up même, j'ai vu, des artistes, pour venir occuper ce lieu pendant un temps limité, puisqu'il est censé être fermé dans 2 ans. Au départ, c'était la durée qui était donnée.
Même un an.
Même un an au départ.
Un an, ouais.
Et puis finalement, comme il y a déjà ces 600 résidents d'urgence accueillis par Aurore, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va faire du lien entre ces deux populations qui, a priori, se rencontrent rarement. Et voilà. Et donc, toi, tu réponds à cet appel d'offres. Est-ce que tu peux juste nous dire si tu as déjà ton projet de film quand tu réponds à l'appel d'offres, ou tu as juste envie de participer? Comment tu te présentes quand
Comment
tu
je suis présenté sur place? Bon, déjà, moi, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, on a dû proposer un dossier pour justement faire du lien avec les personnes en hébergement d'urgence. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de tout ça. On venait pas juste comme ça prendre un atelier ou un studio à moindre coût. Il fallait vraiment œuvrer pour le projet global. Sauf que, bon, j'ai été un peu refusé une première fois, mais vu que je suis un peu... j'aime bien...
Tenace.
Je suis un peu tenace, quoi. J'ai reproposé un dossier pour réintégrer une des parcelles des grands voisins qui était plus pour l'artisanat. Donc j'ai un peu filouté en passant par l'artisanat, mais j'avais pas du tout cette envie forcément dès le départ de faire un film. Enfin, moi j'arrivais là-dedans, c'était très grand, plus de 3 hectares, et on était à peu près 60-70 structures. Puis au final, on était presque 250, mais au démarrage, je savais pas où j'étais. Vraiment, voilà, c'était un projet en construction, mais j'ai sorti quand même assez rapidement la caméra, une fois que j'avais réparé mon local et tout, c'était quand même un vieux bâtiment, hein, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, un peu défraîchi, un peu vieillot, et j'ai sorti ma caméra, puis au début j'ai fait des photos pendant 2 mois, voilà, c'est comme ça que j'ai un peu investi le site, mettre un peu les pieds partout, parce que c'était grand, on était déjà beaucoup, donc c'était comme rentrer dans un village, je sais jamais bien dire ça, rentrer dans un village, au final on connaît personne, donc on a 1000 sujets différents, et donc je me suis perdu là-dedans, moi, dès le démarrage, voilà, et je me suis dit, bon, bah, je vais me cantonner à faire un film par mois, pour l'année 2016, ce qui va me faire une sorte de dérochage. Donc en fait, assez rapidement, en janvier 2016, hop, je commence un dispositif. J'aime bien parler de dispositif quand je fais du documentaire. C'est voilà, je me dis, un film de 15 minutes par mois, et j'en ai fait 12. Et au fur et à mesure, ça m'a permis d'entrer en contact avec les personnes d'hébergement d'urgence. Donc c'était un long repérage finalement d'un an. Et après, l'idée d'en faire un long métrage est née assez rapidement, parce que je me suis rendu compte quand même qu'au bout d'un an, ce projet-là était quand même assez exceptionnel. Voilà, on ressortait des attentats de Charlie Hebdo, Bataclan, cette envie de revivre ensemble, de reprendre du sens dans la vie, et de se retrouver dans un lieu comme ça, assez clos, fermé, loin du brouhaha de Paris. Il y avait un truc très rassurant en rentrant là-dedans, et tout de suite, moi, ça m'a donné l'envie de documenter ça. Vraiment, moi, c'est la marge m'a toujours intéressé. Qu'est-ce qui fait qu'on va se connecter ensemble, et ce projet-là, c'était parfait pour ça. Difficile à définir, comme tu pouvais le dire. C'est un site qui est multiformat, multiforme, un peu tentaculaire comme ça, et comme on disait tout à l'heure, une sorte de joyeux bordel.
Ben on va justement parler de comment s'y prendre pour filmer ce genre de collectif et en faire un film structuré pour des spectateurs, spectatrices qui vont pas s'y perdre, qui vont apprendre des choses et qui vont vibrer avec. C'est effectivement le but recherché quand même. Et par le réalisateur et par les spectatrices et spectateurs, je précise, moi quand je vais voir un film, c'est vrai que j'aime bien être touchée. Et bien sûr apprécier la forme du film, mais que ça me parle, que ça me propose des idées, que ça me fasse réfléchir. Donc voilà, tout ça, les deux films sont matière à réflexion, on peut dire, vraiment pour le public.
Et pour que nos auditeurs se rendent compte, ce serait peut-être bien d'écouter un petit extrait du film des grands voisins.
C'est ce que j'allais proposer. Je donne juste le contexte. C'est le tout début du film, mais tu commences quand même par ce texte en voix off où tu racontes comment toi tu arrives là et où tu donnes un peu l'histoire. C'est quoi les grands voisins? Quand même, c'est un peu normal. Ça serait trop dur qu'on apprenne qu'à la fin du film. C'est donné dès le départ, voilà, il y a
des clés, contexte. Ouais, des sortes de clés pour comprendre à peu près.
Et qu'est-ce que toi tu fais là? Mais après, toi, c'est plus le film dans lequel toi tu te poses des questions. Enfin, tes questions ne passent que par ta façon de filmer, tes rencontres, les personnages, etc. Et donc, voilà, c'est quand même énorme comme collectif, il y a beaucoup de monde. Tu vas choisir quelques personnes avec lesquelles tu as certainement eu des affinités, des rencontres. Et ce qu'on va vous faire écouter là, c'est le premier entretien qui vient vraiment tout au début de ton film, qui est celui avec William, qui est le directeur du site, donc qui a vraiment un rôle important, et qui va nous donner sa vision de ce projet, ce qui est très très clair quoi, de son côté.
Aurore est arrivée sur le site en décembre 2011, sur l'hébergement d'urgence, à une époque où il y avait encore une activité hospitalière sur le site, avec une maternité, une des plus grosses maternités d'Île-de-France qui était encore en activité. Et au fur et à mesure où les Hôpitaux de Paris et la PHP est partie, Aurore a repris les bâtiments pour y faire de l'hébergement d'urgence. On est ici à Saint-Vincent-de-Paul sur une durée courte. On ne maîtrise pas complètement le temps, on ne sait pas combien de temps on va rester. On a à peu près un calendrier, on sait qu'on va devoir partir entre fin 2017, 2018, 2020. Voilà, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas parce qu'il y a beaucoup de considérations autour du futur écoquartier sur ce site. Donc on a la volonté, sur une durée courte, de créer un microcosme qui permette de créer des passerelles entre différents mondes, le monde social, le monde d'insertion, et de créer une dynamique collective qui soit clairement orientée vers une logique sociale de rendre l'autonomie aux personnes qu'on héberge. Et on a une très grande diversité de profils, des gens qui sont plutôt autonomes, des gens qui sont très cassés, on a des gens qui ont des vrais problèmes d'addiction, on a des problèmes qu'on... Il y a une grande diversité, donc c'est impossible de savoir vers où on va aller. Ce qu'on essaye simplement de mettre en place, on se donne les moyens d'ouvrir des espaces de communication. Parce que c'est intéressant et c'est ça qui va aussi permettre de faire tomber un peu les barrières et les stéréotypes et les préjugés.
Radio Libertaire 89.4, nous sommes dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet et on vient d'écouter un extrait du début du film de Bastien Simon, Les Grands Voisins, La Cité Rêvée. Donc, c'est un entretien que tu as avec William. Tu vas nous donner quelques indices. Il y a quelques personnes comme ça que tu vas suivre, qui visiblement deviennent tes amis ou en tout cas sont proches de toi et qui vont, au cours du film, revenir avec une parole de temps en temps qui a un peu de recul. Donc, ce William, Il est directeur du site. C'est quoi exactement cette place? Il a été élu, il a été nommé par qui?
Alors William Dufour, il est salarié de l'association Aurore, en premier lieu, donc qui s'occupe des hébergements d'urgence. Et il a eu en charge de s'occuper, d'avoir un peu cette place un peu forte, qu'on appelle donc le directeur du site, même si lui, il aimait bien aussi se fondre un peu dans la masse et que ce ne soit pas lui qui ait la parole, le dernier mot à chaque fois, mais parce qu'on essayait aussi d'avoir une sorte de création de nouvelles sociétés avec de nouvelles règles, essayer de donner la parole au plus grand monde et puis voilà, que ça ne soit pas trop pyramidal, même si ça l'était finalement un petit peu. Donc William, c'est quelqu'un que j'ai rencontré assez rapidement. Et puis moi, ça m'a intéressé d'avoir... je trouvais ça pertinent d'avoir cette parole plutôt technique aussi de comment on fabrique ce type de lieu. Avec William, on est moins rentré dans l'intimité de la personne, mais plus dans sa place, finalement, dans ce collectif. Et ce qui a été peut-être différent avec d'autres personnes, comme Adrien Collet, qui lui a décidé... qui était luthier sur le site, c'était mon voisin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Puis à un moment donné, il me dit qu'il fait des cours de musique gratuits pour tout le monde, donc surtout aussi les résidents. Et à force de voir passer du monde, il se rend compte du talent de certains, et il décide de créer un groupe de musique qui s'appelle les Cascodes, avec des K dedans. Et c'est vraiment un groupe de musique qui est né des grands voisins. Sans les grands voisins, ça n'aurait pas fonctionné. Donc le chanteur, qui était Thierry, qui était une sorte de punk anarchiste qui était à la rue depuis 20 ans, a tout de suite pris la place au micro, donc avec toutes ces complications liées aussi aux addictions, tout ça, d'endroits aussi pour lui pour dormir. Enfin voilà. Et donc je suis rentré un peu dans cette intimité-là, et ça s'est fait aussi au bout de plusieurs mois, parce que... arriver avec une caméra, c'est quand même difficile. Vous travaillez dans le documentaire, vous savez que c'est pas comme arriver là et parler. C'est là où on va capter la parole, donc ça peut effrayer des gens. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand on arrive sur ce type de lieu avec des personnes donc en urgence un peu drastique comme ça, c'est des personnes qui ont besoin aussi de s'exprimer. Et donc j'ai pu comme ça, par plusieurs films, faire plusieurs rencontres. Donc Adrien, lui, représente un peu l'artisanat sur le site et la création d'un groupe de musique rock, africain, tout type de musique finalement, condensé en un groupe. Et après, on a des personnes comme Kamel qui est à la sécurité du site, qu'on appelait les médiateurs pour pas que ce soit... voilà, ça restait comme la sécurité du site, mais on les appelait les médiateurs, ils étaient là pour aussi garder le site de nuit ou de jour et être là si besoin, voilà. Et ça, c'est des personnes que j'ai pu, au bout d'un moment, réussir à capter certaines paroles de leur intimité, de ce qu'ils pensaient aussi du site par rapport à leur vie personnelle. Voilà, et donc on suit comme ça 5 personnes sur les 2000 quotidiennes qui étaient là sur le site. Et à partir de là, l'idée c'était de se concentrer par rapport à ces individus-là, individualités-là, par rapport à ce groupe et comprendre ce que c'est les grands voisins par rapport à quelques prismes. Voilà, je pouvais pas faire les 2000, ça c'était sûr.
Ça ferait catalogue,
voilà, exactement.
Ouais. Donc, si je reprends ce que tu viens de nous raconter, pendant un an, tu fais un film par mois.
Oui.
Un court-métrage, donc j'imagine, que tu projettes là-bas.
Que je diffuse en ligne, chaque mois, sur Internet, gratuitement.
D'accord, en fait, on peut encore en voir
on
certains.
Peut les voir, toujours.
Oui, c'est ça, j'avais trouvé, mais je n'avais pas compris que c'était dans ce premier temps, avant l'idée de faire un film, puisque ensuite, quand tu décides de faire un vrai film, tu cherches une production. Tu cherches. C'est pas un film que tu vas mener seul, en solitaire. Bien sûr que tu vas être beaucoup, beaucoup seul. Indépendant. Vu que ce genre de tournage, il faut être là, disponible tout le temps, jour, nuit. Soit tu as un comparse vraiment qui vit la même chose que toi et qui fait le son si tu fais l'image.
J'ai tout fait.
Tu as tout fait. C'est très fréquent en documentaire, ouais. C'est sûr, avec des horaires et un temps de travail qui est complètement impossible à bloquer en amont, quoi. Mais par contre, il y a quand même des idées de plans, il y a des idées de films, il y a des idées de séquences, il y a des idées qui viennent de toi et que tu n'as pas pu faire tout seul. Par exemple, il y a des mouvements de drones, je pense,
effectivement, oui.
Dans le lieu, parce qu'il faut donner l'idée de l'espace. C'est énorme, c'est je ne sais pas combien d'hectares.
3,4
hectares. Ouais.
Mais c'est vrai que vu qu'on est dans du documentaire, on est dans des temps longs. Mmh. Et le cinéma, ça coûte très cher. Surtout les salaires, finalement. Et aujourd'hui, avec notre petit matériel, on peut quand même avoir une qualité qui est assez suffisante pour raconter une histoire. Donc assez vite, en 2016, j'ai testé du matériel que j'avais. Bon, je ne vous le cache pas, je n'étais pas très riche à l'époque, je ne suis toujours pas trop non plus aujourd'hui, mais j'ai un peu plus de matériel avec le temps. Mais à ce moment-là, j'avais ce que j'avais et j'avais l'envie, c'était ça. Enfin, on était dans l'action de toute façon. Donc, je me suis dit, on est tous dans l'action, mon film, je vais aussi être dans l'action. Donc je vais sortir ma caméra, mon micro et commencer seul, sans trame, sans rien. Voilà, je vais déjà aller faire des interviews et... capter le plus de choses possible et après je verrai pour la trame écrite. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon, il faut quand même une production. Mais même à chaque fois, j'ai rencontré une première production, mais j'avais toujours pas d'argent finalement, parce que ça prend du temps pour faire les dossiers, tout ça. Et donc pas d'argent pour un site qui lui est en train de qui continue sa vie, et ça faisait déjà un an. C'est long hein, aussi d'aller chercher de l'argent et tout ça. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, crowdfunding, tout ça, on y va en fonds propres.
Vous avez vu la même chose en fait, non?
On a fait aussi un crowdfunding.
Ouais, je vous vois opiner.
Oui, vous pouvez peut-être en dire un mot.
Ouais.
Et puis après, on va faire une première pause musicale, puis on reprendra la discussion.
À la base, on avait commencé à travailler avec une productrice qui avait commencé à chercher des financements. Et pendant ce temps-là, nous, on avait commencé à tourner. Et en fait... elle nous a lâchés au premier tiers de l'aventure, on va dire, et on a décidé de continuer quand même. Nous, on ne se payait pas, on a fait le film bénévolement, on a tout filmé nous-mêmes, on a fait le son aussi. On a été très aidés par une amie chef opératrice qui est venue notamment nous aider pour à filmer les entretiens de nuit. Parce que les entretiens ont lieu de nuit. Et puis, voilà, c'était un peu la débrouille. On a été rejointe par une productrice, mais plus tard, sur la fin, qui nous a aidés pour la post-production. Et donc, l'argent qu'on a eu vient d'un crowdfunding. Voilà, qui nous a permis d'aller
loin. Non, mais c'est vrai. Finalement, une fois qu'on a fait toutes les images, le sujet est bien ficelé, presque, là, ça attire quelques producteurs.
Tant mieux, mais voilà. Voilà qu'on a bien lancé les points communs qu'il y a entre vos deux films et on va poursuivre sur la...
Justement, on va inverser la pause musicale qu'on avait prévue avec Casse-Côte, parce qu'on a un petit bout de Casse-Côte, vu que tu as parlé d'Adrien... comment il s'appelle ?
Adrien Collet.
Adrien Collet. Mmh. Donc, qui est leur premier disque. Donc, c'est un extrait de Exil, c'est ça ? Ils ont sorti un disque, là, parce que ça continue, Casse-Côte.
Ça continue toujours.
Voilà. Merci pour la petite pause musicale.
Voilà, il faut quand même en dire peut-être un petit peu de mots de plus. Donc, tu nous as parlé de cet Adrien qui était luthier et qui donnait des cours dans les grands voisins. Et qui, moi, ce que j'en vois, c'est que par rapport à ce projet qui était de faire du lien entre les résidents hébergés d'urgence et des artistes des assos, c'est exceptionnel. Vraiment, lui va réussir à rentrer en contact par le biais de la musique, va même impulser cette envie de jouer ensemble. Il s'avère que les résidents qui participent sont incroyables. C'est Thierry, là,
punk.
Voilà, qui dit non, j'ai jamais touché à la batterie. Et toi, t'es là à ce moment-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu suis...
Ça, c'est Neji à la batterie. C'est une équipe de un peu... Je mets un peu de bras cassés, comme ça.
Ouais.
Mais qui vont loin, finalement.
Et qui ont des potentiels incroyables.
Ils ont des belles voix de rocker, comme moi, aujourd'hui.
Voilà. et il suffit... Et c'est là qu'on découvre qu'effectivement, il suffit de... juste d'une petite étincelle de cet Adrien qui est là, disponible et qui en a envie. Bon, il a une énergie folle.
Il y a un langage par la musique qui permet de créer ces amitiés qui sont très fortes aujourd'hui et qui font aussi qu'on dépasse le cadre de la musique. Ça, on peut le voir dans le film où ça parle même de comment il peut les aider à obtenir des papiers, à les loger. Enfin, il dépasse son cadre d'artisan luthier finalement. Voilà. À ce moment-là.
Ah oui, ça c'est vraiment très fort. Et donc, on avait choisi en deuxième partie, mais là, en première, ça tombe très bien, un extrait d'un album qu'ils ont sorti parce que le groupe Casse-Côte marche bien.
Exil, s'appelle l'album. Mm. Merci.
il a donne top toi. Sou mané de falco, il est pour barré. Yaoula donne bis, merci. Yamadon top toi. Yay boy, bima sonne yamadon digger. Bima rere. Merci. Gurem nana, yamadon top toi. Yayou ala. Bima sonne yamadon digger. Bima rere. Merci. Gurem nana, yamadon top toi. Gainjor. Bima sonne yamadon digger. Bima rere. Fatou mal na batou mal man mala sendo Il a donné top photo. Somme de Falco, le plus barré. Yaoula donne, merci. Yamadon top photo. Gainjor, Bimosatne, Yamadon digle. Abimare, merci. Geremnal, Yamadon top photo. Yayo Anna, Bimosatne, Yamadon digle. Bimare, merci. Yayo Anna. Yamadon top photo, Gainjor, Bimosatne, Yamadon digle. Bimare, merci. Merci beaucoup. Yamadon top photo. Jaral ngama, my jai sa madole. Fatou mal na batou mal mala sendo kila dan popo so mané te falco le paré Don merci Yamadon ton poto Gainjor Bima sonne Yamadon digle Bima rere Merci Gerema Yamadon ton poto Yaybo Bima sonne Yamadon digle Bima rere Merci Gerema Yamadon ton poto Jaralngama 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 Ma jai sa matole
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Avec, dans notre émission d'ad hoc, on a déjà traité le sujet. Aujourd'hui, deux films, donc De rêve et de parpaing, qui va bientôt sortir, d'Anne-Sophie Biraud et de Laetitia Douane. Et le film de Bastien Simon qui est déjà sorti, Les grands voisins, La cité rêvée. Là, on va parler plutôt de la forme. C'est bien parti, donc on commence à bien sentir les films, même pour ceux qui sont un peu loin à la radio, je pense. Donc Les Anges Chantières. Elles évoquent souvent, sur le chantier, leur raison d'être là. À force, en fait, elles sont bien différentes, toujours soudées. Et par moments, vous avez choisi de faire des entretiens, tu l'évoquais tout à l'heure, Anne-Sophie, pour les mettre complètement ailleurs que dans le chantier. C'est le soir, dans un autre contexte. Et là, il y a une cadreuse, donc c'est Isabelle.
Isabelle Razavet, mais c'est pas dans un autre contexte. Les entretiens ont lieu sur le chantier. Par contre, ils ont lieu de nuit pour changer l'ambiance. Mais on est sur le site, on n'est jamais sorti du site, en fait, pour le film.
Mais par contre, elles travaillent pas. Quand je dis un autre contexte, c'est qu'elles ont lâché les outils. C'est ça que je voulais dire un peu, quoi. On va écouter un extrait, justement, où il y en a, où elles sont trois. Et elles discutent les unes après les autres. Comme ça sera plus facile pour que les auditeurs se rendent compte.
Dans le monde du travail, qui était plus un monde d'hommes, et je me suis dit, je m'en fous, j'y vais. Et en fait, ça m'a... J'étais obligé... J'y vais. Donc d'avoir un peu cette position-là, des fois, bon, je vais... Là, j'ai plus besoin de... J'arrive, je fais, ah, je suis là. La différence, c'est ça, c'est l'attitude, quoi. C'est vraiment une richesse pour moi, un intérieur très importante, quoi. Vraiment, c'était un souhait, vraiment, j'avais envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et là, dans la construction, c'est merveilleux. Je suis dans mon monde. Voilà.
C'est vraiment sur les chantiers que j'ai compris qu'il y avait un sujet, quoi. Que non, c'était pas parce que j'avais pas suffisamment de connaissances qu'on m'excluait, mais c'est parce que j'étais une femme. Il y a vraiment un moment, j'ai compris ça. Et c'est ça qui a entraîné ensuite des recherches, des discussions, enfin, une espèce de compréhension. Mais... En tout cas, l'analyse des situations dans lesquelles je me retrouve en termes de rapport homme-femme, elle est tout le temps présente.
Toute petite, je me demandais pourquoi les hommes étaient assis à table à discuter et les femmes, elles couraient partout pour nettoyer. Il y a une construction qui vient de loin, je pense, qui m'a amené à... C'est le militantisme mixte. Et la difficulté d'être dans des milieux de militantisme mixte aussi, qui ne me plaisait pas, en fait. Il fallait crier plus fort pour prendre la parole, il fallait savoir plus pour toujours savoir plus, ou démontrer des savoirs, ou d'avoir lu, ou d'avoir, je sais pas, toujours démontrer, quoi. Alors que le féminisme, c'est aussi partir de soi pour déconstruire la société. Et quand on part de soi, on comprend mieux l'autre. On comprend mieux la matrice d'une société patriarcale qui nous a construit.
C'était un extrait de Deux rêves et deux parpaings. Donc là, il y a trois personnages. Chantal, qui est un des personnages phares. Ensuite, vous allez m'arrêter, je ne sais plus qui parle. Et la dernière, c'est Domitia, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est Awa qui parle.
Awa, entre les
Awa
deux.
Et Domitia.
D'accord. Et donc, est-ce que c'est venu au fur et à mesure du film ? Cette envie des entretiens, ou est-ce que dès le départ, vous saviez que vous feriez ces entretiens ?
On s'est posé la question très tôt, mais c'est resté quand même pendant une longue période quelque chose qui était un doute, quoi. On se demandait si on allait... on savait qu'on voulait qu'il y ait une parole, mais on ne savait pas si c'était des entretiens à plusieurs ou seuls. Ça a été aussi l'objet d'une discussion avec elles, parce qu'elles avaient très peur qu'on fasse des portraits et qu'on focalise sur des protagonistes en particulier. Ça a vraiment fait l'objet de discussions. Et finalement, on a trouvé cette idée de faire des entretiens par deux, trois maximum, ce qui était comme un petit collectif, mais quand même de pouvoir les filmer en plan proche et d'avoir une personne dans le cadre, quoi. Et donc ça a permis aussi d'avoir une parole quand même plus intime avec des petits groupes plus restreints. Et puis le fait de filmer la nuit aussi, ça a créé une intimité, une densité, quoi, que on n'aurait sans doute pas eu autant si ça avait été sur le chantier. Voilà.
Sophie, justement, dans ton film, toi, Bastien, il y a un moment de nuit aussi, tu t'es posé ce même style de question, entretien, pas entretien, tu t'es jamais posé comme elle ?
Fallait que je trouve une forme pour ce film-là, et c'est vrai que je me suis posé la question de comment esthétiquement j'allais représenter ces actions. Et assez vite, je me suis dit qu'il fallait que ça soit une sorte de film un peu coup de poing avec du matériel léger. Même si, au préalable, j'avais quand même fait deux, trois interviews posées, histoire de poser le cadre et même réfléchir à ce que... Voilà, ça faisait toujours une base, quelque part, même juste pour le son. Et assez rapidement, avec la monteuse Suzanne Van Boxham, on s'est vite dit qu'il fallait qu'on reste sur du cinéma direct, dans l'action, avec des prises de parole à la volée. Et si on devait rajouter quelques, parole en off, on le ferait pour la compréhension. Voilà, on avait fait des projections test et les premières projections se révélaient qu'on comprenait rien. Donc, c'est quoi ce projet?
C'est court, souvent, les extraits, d'ailleurs. Enfin, j'ai remarqué dans les...
Quand c'est posé?
Non, mais même quand vous captez c'est très court, parce qu'on voulait prendre des extraits, souvent on avait 30 secondes, 40 secondes,
c'est pas exactement ça. Effectivement, moi je comprends bien, parce que l'extrait qu'on va écouter du coup, qu'on avait prévu après, mais il vient vraiment sur ce que tu racontes, c'est ces voix off, dont tu as fait un montage à deux moments différents, dans le premier tiers du film, qui nous met justement, qui nous fait entendre ce qu'on a appelé nous des voix anonymes, c'est-à-dire dans ces 2000 personnes qui sont sur le site. Il y en a la nuit, c'est des résidents d'urgence, et la journée, 5 minutes avant dans le film ou 10 minutes avant, c'est plutôt des assos, des artistes, et c'est plus sur des images de jour. Moi j'ai fait une petite coupe, c'est-à-dire je les ai accolés avec un petit blanc.
Parce qu'on est en radio.
Parce qu'on est en radio, je le dis.
On n'a pas l'image.
Mais pour avoir justement. Moi j'ai tout. Alors tu vas me dire, moi j'ai compris que effectivement tu construisais ton film avec trois dispositifs, d'une part les rencontres que tu fais avec des individus et avec lesquels tu vas vraiment partager non seulement une parole de temps en temps, entretien, et une intimité quelquefois, et aussi voir qu'est-ce qu'ils font eux dans le site, en quoi ils apportent quelque chose ou en quoi le site, les grands voisins, les nourrit.
Et vice-versa.
Voilà, vice-versa, exactement.
On appelle les travailleurs du site et les hébergés.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Après, tu as un deuxième grand axe qui est les réunions collectives, les conseils qui se passent dans l'amphithéâtre, parce que ne pas oublier qu'on est dans un hôpital, un ancien hôpital, donc il y a un amphithéâtre qui devait être la fac de médecine.
C'est très pentu, impressionnant, parce que c'était pour les cours d'opération chirurgicale, pour bien qu'on voit, donc ça donne une espèce de masque
Et ça fait un monde fou qui participe à ces conseils, il y en a un par mois, c'est presque ce qui est dit.
Presque entre 60-100 personnes par conseil.
Voilà. Normalement, on l'apprend petit à petit, mais c'est pas toi qui le dis, c'est vraiment, tu nous donnes juste à le comprendre en montant ces moments-là que tu as filmés, où se pose la question du nombre de résidents d'urgence dans ces conseils. Parce qu'évidemment, ils sont quand même en majorité ceux qui sont venus de leur propre gré avec un projet, qui ont la tête assez claire, assez libre pour pouvoir participer à la discussion,
la langue
quelquefois, bien sûr.
50 nationalités représentées.
Ouais,
se poser la question de est-ce qu'on doit tout traduire en toutes les langues pour ramener aussi les personnes hébergées. Effectivement, sur peut-être 60-100 personnes, il y avait peut-être même pas une dizaine d'hébergés par réunion. C'était effectivement la phase plus politique du film. Plus compliqué aussi pour ces personnes-là qui ont d'autres choses à penser que participer à 2 heures de réunion...
Alors du coup là on va peut-être écouter l'extrait justement de ces voix off sur des images, parce que ce que j'allais finir en disant, donc t'as déjà ces trois formes différentes d'approche, et puis celle qui essaime tout le long du film, c'est de très belles images qu'on sent que tu fais, t'as un sens de l'image, tu as un sens de raconter quelque chose, mais par contre c'est là que je rejoins Mélanie. C'est très 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 rapide. C'est vrai que c'est un lieu. Moi j'y suis allée au Grand Voisin à des moments de portes ouvertes, ou même il y a eu un festival à un moment dans une salle, et j'ai bien vu que, comme tu racontais, quand tu y arrives au début, tu sais pas où regarder, tu sais pas qui. Il y avait des portes ouvertes d'artistes. Ok, alors tu te dis bon attends, c'est un endroit où les artistes ont leur lieu de travail.
Il y a une marché aussi.
Mais il y a une cantine, il y a des tas de cafés, il y a Emmaüs au bout d'un moment, il y a.
Enfin, c'est un grand bazar.
Voilà, il y a des choses qu'effectivement toi tu n'as pas forcément abordées et qui pour moi qui y suis allée restent des questions. Parce que justement par rapport aux enchantières, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de construction.
Oui.
Il y a en fait c'est plateau urbain. Il y a une des associations qui elle est venue Ou c'était plus, peut-être plus que ça.
Yes We Camp.
Ah, Yes We Camp. Yes, ouais. Voilà, il y avait ces deux assos. Voilà.
Et c'est vrai qu'on est un peu sur la même énergie qu'on peut voir dans votre film, c'est que l'idée, c'est d'avoir des chantiers partagés pour toutes celles et ceux qui veulent pour participer, même si on ne sait pas forcément tenir un marteau, une visseuse. Voilà, il y avait l'idée d'aider à construire qu'est-ce qui allait nous rassembler au sein du site. Bon, bah voilà, effectivement, il y avait de la restauration, des bars, il y avait donc des terrasses, tout était en bois, quoi. C'était un peu l'époque de palette bois, quoi. Et il y avait une vraie coloration un peu particulière qui était amenée par l'association Yes We Camp. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai vu ça avec votre film aussi. Mmh. Je trouvais qu'il y avait un peu se retrouver. Il y a une énergie de construction et qui permet aussi la rencontre, rien qu'en construisant, en fait. Mmh.
Moi, je me rappelle d'une allée où il y avait carrément des cabanes différentes. Ah oui. Certaines qui étaient dans des arbres, sur pilotis, des formes d'habitat visiblement possibles à faire soi-même, enfin en petit groupe, mais sans gros engins, sans...
C'est pour ça que c'est difficile à définir finalement les grands voisins, parce que même moi, tous les jours sur le site, le public extérieur, il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui toquaient à ma porte pour me demander c'est quoi ici. Alors qu'il y a des panneaux partout, il y avait de la signalétique, il y avait vraiment un lettrage particulier. Mmh. Voilà, il y a des personnes qui étaient en charge d'expliquer, et des panneaux de 3 par 4, je sais, mais les gens le disaient peut-être pas forcément tout le temps. Et donc il y avait un truc de... On rentre dans une sorte de village où effectivement il y a un bagna, les gens sortent limite nus, ils sont en slip... plein milieu du... Voilà. Il y a un camping. Il y avait le premier camping intramuros. Il y avait un terrain de foot. Il y avait beaucoup d'activités très diverses et variées pour créer la rencontre. Mmh. Et à certains moments, faire un peu d'argent aussi. Parce que c'est un site quand même qui coûte extrêmement cher.
Il y a eu le même problème dans votre film aussi sur l'argent. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre pour les assos. Mmh.
Oui, parce que dans le cas des enchantières, il y a eu une grosse subvention au départ qui a permis de lancer le chantier, mais il y a un moment donné où on manque, où il faut chercher d'autres subventions, il faut faire des dossiers, et à un moment donné, on ne sait pas si ça va continuer. Il y a eu plusieurs moments même où on se dit, mais...
Oui. C'est le point commun.
Il y a quand même une subvention, c'est ça qui a été accordé?
Oui, il y a c'est le budget participatif de la ville qui a permis au chantier de se lancer. Mais il y avait compris dans cet argent des frais que les enchantières n'avaient pas imaginé, ce qui fait qu'à un moment donné, il a fallu aller chercher d'autres argent ailleurs. Et si on ne trouve pas d'autres argent ailleurs, ça s'arrête.
On regarde peut-être, on écoute l'extrait. Voilà, on regarde.
Nous, on écoute donc l'extrait numéro 3, donc avec ces voix d'anonymes, de personnes qu'on aura peut-être entrevues, aperçues dans tes images, mais qui ne parlent pas à la caméra.
Moi, personnellement, je suis épaté, ébahi, ému quand je viens ici. À chaque fois, ce qui se passe ici, ça échappe à tout le monde. Cette espèce de coloration expérimentale, participante.
Il y a ces trois sphères, les travailleurs du site, on va dire, ceux qui travaillent sur le site, vous, les artisans, les artistes, les associations, les entreprises. Il y a les résidents, il y a le public. Et puis, comment interconnecter ces sphères?
Faire de l'alphabétisation, donner des cours de langue, des cours gratuits. Ici, il y a plein d'artistes qui ont des compétences vraiment rares, tu vois. Voilà, ça, c'est de la politique. Et pour moi, ce réservoir d'expérience politique, il est très important pour la suite. Il rompt avec la politique traditionnelle.
Quand il y a eu tous les attentats ce week-end-là, après, on a fait tous un déjeuner tous ensemble. Et je pense que ça avait du sens pour tous. Aussi parce que on se retrouve avec des valeurs qui vont contre la séparation entre les personnes, le manque de tolérance et tout ça.
Quand je suis arrivée ici les premiers jours, je voyais autour de moi cette souffrance des personnes qui étaient malades, qui avaient des addictions, je me suis mise à pleurer.
J'ai commencé à rencontrer des mauvaises fréquentations. Mes parents, ils ont eu un moment, ça a duré un an, et ils m'ont dit, bon, on n'a plus aucun moyen de te faire comprendre, donc la seule manière, c'est de te mettre dehors.
On était de 210 dans un bateau. À un moment donné, en traversant la Méditerranée, on a vu la mort.
Maintenant, je suis plus au calme. Je suis dans une chambre toute petite, toute seule finalement. Et du coup, je peux faire mes activités, lire la guitare.
Peut-être je croyais que j'allais arriver en Europe, j'allais retrouver des billets d'euro pendus sur les arbres. Mais c'est pas le cas.
Radio Libertaire 89.4. Nous sommes dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet avec deux films et leurs réalisatrices et réalisateurs pour parler de collectif bâtisseur d'utopie. On vient d'écouter une forme un peu particulière du film de Bastien où, je l'ai annoncé tout à l'heure, j'avais été frappée par ces voix anonymes qui sont montées. Alors, à quel moment tu construis ces moments-là? Est-ce que c'est au montage, au final, ou est-ce que c'est dès le départ pour bien faire comprendre qu'il y a les personnages que tu as rencontrés, que tu nous fais connaître, parce que tu mets leur nom, en général, en tout cas la première fois, pour qu'on nous-mêmes, on les rencontre. Et puis tu as ces collectifs, les amphis pleins, où il y a du monde et on ne reconnaît pas forcément. Et puis tous ces déambulations dans le lieu, les grands voisins, qui est en pleine vitalité avec toutes ses activités, ses fêtes, ses concerts, sa culture. Et puis tous ces gens-là qui sont anonymes, à quel moment tu choisis? Ou alors est-ce que c'est des...
Comment je les révèle?
Tu avais enregistré ces entretiens avec eux, tu décides de les monter en off?
En fait, j'ai fait en tout 16 films en 5 ans.
Combien d'heures de rush?
Trop. Mais le fait que j'ai fait ces films avant de faire le long métrage, ça m'a permis d'avoir des versions montées, finalement, avec déjà des récupérations de ce que je voulais. Donc il y avait ces fameux 12 films en 2016 de 15 minutes, ça faisait quand même 3 heures de films montés. J'avais déjà une matière, mais qui était bordélique à souhait, sans trame narrative, donc c'était impossible à monter, qui se retrouve dans le film dans les 20 premières minutes, on va dire ça. La première année, c'est les 20 premières minutes du long métrage, qui est une entrée dans le site qui est bordélique. Mais c'est comme ça que je le vivais. Donc c'était pas trop grave finalement. Et après, on se resserre sur les personnages. Et en même temps, quand j'étais sur le site, l'association Aurore avait eu vent que je faisais tous ces films-là. Et ils m'ont demandé de réaliser un premier film pour eux de 26 minutes. Enfin, ça, c'est moi qui avais décidé 26 minutes. Mais sur des paroles des bergers. Et ça, c'est devenu Portrait de résident, chapitre 1 et 2, deux films de 26 minutes. Donc j'avais toute cette matière. Et ce qu'on entend là, en fait, finalement, c'est donc des personnes des hébergements, d'urgence, principalement. Mais je voulais pas que cette matière-là, elle disparaisse. Et avec la monteuse, donc Suzanne, on a décidé de repiocher certaines paroles pour avoir cette sorte de murmuration dans le site, la nuit, voilà, pour qu'on comprenne qu'à côté des 5 personnages principaux que j'avais choisis, il y avait aussi tout le reste, mais je ne pouvais pas en parler, mais je voulais aller piocher des paroles, des pensées. Voilà. Et il y a cette sorte de poésie de la nuit aussi, un peu comme ça, voilà, qui crée un peu de poésie dans ce film, qui se veut de toute façon un peu coloré et bordé d'espoir. Mais à l'intérieur, il peut y avoir ces questionnements-là de ces personnes-là,
d'où elles viennent
et comment elles voient le site. Et ça peut être un peu dramatique, comme complètement solaire, quoi.
Il y a peu de films.
Ça s'est fait au montage. Donc ça, c'est...
Alors, une Suzanne, il y avait une monteuse quand même.
Et Suzanne,
je disais que tu déplorais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de filles, mais il y en a quand même une qui monte.
C'était fait exprès d'ailleurs. J'avais fait exprès de prendre une femme au montage, justement, parce que j'avais un trop-plein de personnages masculins.
Mais on
ne
la voit pas.
On ne la voit pas. Et ça n'a rien changé, finalement, dans le fond.
Parce que
Suzanne était plutôt quand même. Pour elle, c'était l'histoire qui comptait avant tout, que ce soit un homme ou une femme. Donc finalement, elle m'a extrêmement aidé à prendre du recul sur tout ça et créer la trame du film. Donc il y a beaucoup de choses qui sont créées au montage. Voilà, j'ai eu beaucoup d'heures de rush, beaucoup trop, je pense. Quoique, j'avais peut-être 150 heures, 200 heures.
Nous, pour faire un clin d'œil, on a choisi une pause musicale justement qui va te contrarier. C'est Guédré, les 100 kikis.
Comme toutes les petites filles, tu verras vite que la vie est plus ou moins rigolote selon ce qu'on a dans notre culotte. Si dans la tienne y'a rien qui pendouille, rien qui ressemble à une grosse nouille, c'est que t'as perdu à la loterie de l'attribution des kikis. C'est dommage parce qu'un kiki, c'est hyper utile dans la vie, pour genre pas se faire violer dans un sous-sol. Bref,
de bol. Heureusement, quand on est sans kiki, on a plein de trucs en contrepartie, comme des promos sur du parfum tous les 8 mars, et c'est pas rien. On a accès à des numéros verts si on se fait tirer dessus avec un revolver, et une gentille petite tape dans le dos si on se prend des mains au cul dans le métro. La vie, c'est moins fatigant quand on a un petit truc qui pend. Tu verras que quand t'es sans kiki, souvent on entend mal ce que tu dis. Il semble que les fréquences de ta voix sont imperceptibles à qui en a. Puis ça devait pas être si important et sans doute pas très très intéressant. Allez, t'as gagné un lot de consolation, un beau compliment sur tes nichons. Normalement, en tant que sans kiki, tu auras un salaire plus petit, mais t'auras le privilège de pouvoir sucer ton patron pour des RTT. Et après, fini la galère, et après, à toi les bonnes affaires. C'est que le plastique rose des rasoirs, ça se mérite plus que le plastique noir. Pas de bras, pas de chocolat, pas de kiki, pas de répit. La vie, c'est moins fatigant quand on a un petit truc qui pend. Généralement, quand on n'a pas de kiki, on n'a pas de nom aussi. On devient simplement une femme, la femme de la femme qui, bref, une femme. Une femme découvre un vaccin, une femme élue au Parlement européen. Attention, il ne s'agit pas de la même personne, c'est juste qu'on s'en fout de comment une femme se nomme. Parfois t'en auras marre, souvent tu seras fâché, et il t'arrivera de vouloir t'énerver. Ce n'est rien, c'est juste une maladie très typique. Ce n'est rien, calme-toi, t'es juste hystérique. Ou c'est simplement peut-être hormonal. Tu vas avoir tes règles, non? Bah c'est normal. Allez, détends-toi, prépare-nous un bon petit plat. Et si tu mets le feu assez fort, peut-être ça brûlera le patriarcat. Pas de bras, pas de chocolat, pas de kiki, pas de répit. La vie, c'est moins fatigant quand on a un petit truc qui pend.
Petit truc qui pend. Voilà, c'était Guédré, les sans kiki. Et donc, nous, on va parler de féminisme avec les anges entières. Donc, ça collait plutôt bien, cette petite pause musicale. On est toujours sur Radio Libertaire 89.4. Donc, le film de Rêve et de Parpaing et les voisins de cité,
les grands voisins.
Les grands voisins, j'ai plus de voix.
La cité rêvée.
Merci. Donc pour les anges entières, juste, on s'était demandé, quand on a vu, est-ce qu'elles avaient envie de parler de personnages, plutôt de collectifs, c'est ce dont on parle vraiment. Tu as commencé, Laetitia, tout à l'heure à parler de ça. Il y a Manu et Chantal qui sortent, mais au départ, les Enchantières, ce que vous disiez, elles sont un collectif, et comment filmer un collectif, c'était ça vos questions un peu aussi, non? Je ne sais pas laquelle la plus à l'aise là-dessus.
On voit un peu plus Manu et Chantal pour une raison très simple, c'est qu'elles ont été salariées sur le chantier pour encadrer le chantier. Ça a été décidé entre toutes. Et elles ont interrompu chacune leur activité à ce moment-là pour encadrer le chantier au quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle on les voit physiquement un peu plus que les autres, parce que les autres, elles viennent sur leur temps libre, elles sont bénévoles. Et voilà, c'était un temps particulier où elles ont été salariées. Après, elles ont cessé de l'être et tout le monde est redevenu bénévole comme avant, en fait. Et les enchantières, encore aujourd'hui, c'est que des bénévoles. Et c'est ce qui permet aussi de maintenir ce fonctionnement horizontal, en fait. Il n'y en a pas qui savent plus que d'autres. Bien sûr, il y en a qui sont artisanes professionnelles, donc elles ont des savoirs que d'autres n'ont pas. Mais au niveau politique, je dirais, de tout ce qui se décide, c'est vraiment... Ça se décide ensemble. Sans qu'il n'y ait jamais de vote à la majorité. Ça n'existe pas. Il suffit qu'une s'oppose à une décision. Là, c'est cassé. Voilà. Donc, parfois, c'est des heures et des heures de parole, hein, et des réunions longues et tout, mais ça se... Il y a toujours un consensus au bout du compte.
Sébastien, tu n'as pas eu ça, toi, dans ton... au grand voisin, des heures comme ça? Il y a moins d'horizontalité. Tu disais tout à l'heure, c'était quand même un peu pyramidal par moment, non?
Oui, parce qu'on avait quand même trois grosses associations qui géraient le site, qui avaient été appelées aussi pour construire les grands voisins. Donc c'était l'association Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain. Donc chacun avait une position bien précise pour fabriquer ce site et le mettre en marche. Et après, il y avait une volonté évidemment de donner la parole au plus de monde possible et de faire ces fameuses réunions dans l'amphithéâtre où tout le monde était invité pour débattre de certains points qui avaient été... donc mis en place justement par ces trois associations là quoi. Mais il y avait des votes à main levée, voilà, mais c'est un autre dispositif parce qu'il y a beaucoup plus de monde, trouver des consensus avec 1500 personnes.
Il y a un gars à un moment dans ton film qui pose la main et qui dit mais pourquoi on les investit, enfin pourquoi on... Je ne sais plus, on a hésité à le prendre comme extrait.
Oui, mais ça, on en a parlé, c'était la mixité qui, en fait, reste un petit peu superficielle, en tout cas dans ses conseils. Les résidents d'urgence n'assistent pas tant que ça.
Soit c'était parce que physiquement, ils ne pouvaient pas venir, mentalement.
Voilà, non, c'est très...
Mais il y avait des porte-parole à chaque fois dans les lieux qui venaient.
Oui. Voilà. Et il y avait cette envie et ce... L'idée, c'était quand même d'aller vers cette mixité, de proposer des activités, de la formation, et dans les deux sens, d'apprendre de la part de ceux qui parlaient une autre langue, avaient une autre culture. Voilà. Ça on le sent assez bien. Ouais.
Oui, il y avait vraiment une volonté de mixer les habitants, hein, finalement, de ce site. Et, mais en même temps, vu que c'est une sorte de laboratoire un peu de... utopique comme ça, et voilà, on se confronte aussi à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, donc il faut lancer aussi des idées, des envies, et après on se heurte à certains endroits, à des murs, et puis comment on les contourne, voilà, comment on casse tout ça, et puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, donc c'est important aussi dans le film qu'on montre une part de dysfonctionnement, parce qu'on pouvait être voilà, traité de site enfin je sais pas, un peu paillette parfait, mais enfin c'était au sein même du site, la cohabitation pouvait être compliquée aussi, et ça c'est, même si le film en lui-même pour moi c'est une j'avais une volonté de montrer quelque chose de très beau et très lié à l'entraide et tout ça, parce que c'est profondément moi, enfin finalement je dis on en a tous besoin malgré tout, mais il faut sans omettre aussi que à certains moments on n'arrivait pas à se comprendre.
Il y a deux choses très particulières. D'abord, 2000 personnes, cet énorme site. Effectivement, il peut y avoir des intrusions, il peut y avoir des débordements, il peut y avoir... Et c'est ce qui arrive à un moment. Et c'est aussi un extrait qu'on a eu envie de garder dans l'amphi quand tout le monde parle de la police, faire venir la police ou pas. Et où c'est William, à la fin, qui recadre un peu en rappelant les chiffres, en disant que... Bon, ben, en fait, franchement, sur le nombre de réfugiés et de personnes qui passent là tous les jours et qui vivent là, dans l'ensemble, quand même, c'est calme.
En fait, les soucis venaient souvent de l'extérieur.
Oui.
Parce que des personnes qui venaient sur le site, qui ne connaissaient pas forcément les règles et qui s'y installaient. Là, bon, on parle, c'est un souci qui est lié en fait, à la drogue à ce moment-là. C'est qu'on a eu une sorte de groupe qui s'est installé en plein milieu du site avec ses propres règles. Et là, comment on gère ça? Ça, personne n'était préparé à ça. Nous, on ne savait pas en fait, qu'il y avait aussi eu un deal un peu avec la police pour qu'ils viennent de temps en temps, de manière un peu anonyme, comme ça, sur le site, au cas où. Et heureusement, parce qu'il y a eu à un moment donné... Enfin, ce groupe s'est un peu autodétruit par lui-même via une altercation. Et la police était sur place à ce moment-là. Mais sans la police, finalement, ça pose des grosses questions de sécurité pour les personnes du site. Nous-mêmes, on n'est pas habilités à gérer ça.
Ouais. Il y en a un qui a une parole vraiment intéressante, c'est Kamel justement, celui qui est à la sécurité, animateur, enfin...
Médiateur, oui.
Et médiateur, et qui a cette intelligence de parler des jeunes qui ne trouvent pas leur place, et qui du coup s'oppose en pensant que tous les autres sont des ennemis.
Parce que lui-même vient aussi de loin.
Voilà, il parle de sa banlieue et il raconte que lui... Parce qu'on avait pensé le faire écouter, mais comme c'est finalement plutôt dans l'amphi qu'on va entendre comment ça se passe quand c'est un collectif, le groupe. Kamel, il a cette vision qui est hyper juste. Alors il te le dit à toi, c'est un des moments d'entretien, quoi.
C'est ça,
mais après qu'on ait vu la réunion collective avec cette problématique de police ou pas, et comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on choisit, comment on s'en sort.
Mais il parle de personnes désœuvrées, si je me souviens bien.
Voilà,
et il fait un parallèle avec son passé, et que lui...
lui, il est parti. Il est allé, il a voyagé. Il est parti, il a pris du recul. Oui, au Laos ou au Cambodge, enfin en Asie. Et il pense qu'effectivement, ce qui serait bien pour ces jeunes, c'est de sortir de leur milieu, de sortir, d'aller loin, d'aller ailleurs, pour avoir ce recul. Et ensuite, quand tu reviens, tu
les grands
tu
voisins,
peux
ils sont censés aussi répondre à ça.
Voilà. Mais les jeunes qui foutaient le bordel, c'était pas ceux qui étaient hébergés.
Non.
C'était voilà, ceux qui venaient parce qu'il y avait une ouverture, une porte ouverte. Ouais.
Parce que les résidents, les hébergés pardon, du site étaient un peu sous la tutelle de l'association Aurore. C'est-à-dire que voilà, s'il y avait vraiment des problèmes qui se accumulaient, les personnes étaient ramenées dans d'autres sites. Enfin, voilà, il y avait une sorte de punition. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Enfin, en tout cas, ils avaient le risque d'être exclus de leur chambre. Mais comme dit William, il le dit très bien, il dit que c'est pas dans leur but de réexclure des gens, et que voilà, l'idée c'est aussi de comprendre pourquoi certaines personnes réagissent d'une telle ou telle manière. Mais ça, il parle vraiment des personnes qu'ils ont en charge. Et là, effectivement, le groupe qui vient de l'extérieur, ça c'est encore un autre souci.
Et puis sinon, mais on va peut-être faire un petit peu plus de dialogue entre vous, mais il y a quand même ce couperet de... le côté éphémère de l'expérience, et dès le début du film, c'est donné. Donc il y a quand même quelque chose qui, au fur et à mesure où c'est vivant, où ça se construit, où il se passe des choses, où on invente, il y a quand même l'idée que à telle date, il faudra partir. Alors que vous, c'est vraiment...
Ça continue en ce moment, en fait, les enchantières.
Oui, ça continue. Le chantier a été terminé à un moment donné. En tout cas, au niveau du gros œuvre, il reste encore, je ne sais pas moi, des petites choses à faire à l'intérieur, poser la cloison de la salle de bain,
Mais le but, c'est que ça ne soit jamais fini, c'est
Mais
ça
Mais déjà, les ateliers tels qu'ils avaient lieu avant la construction du bâtiment ont commencé à reprendre, les ateliers de bricolage. Voilà. Et voilà, là, il y a un placard qui est en construction pour ranger les outils. Il y a des luminaires qui ont été posés. Enfin, le lieu est praticable.
Au fur et à mesure du film, on parlait des personnages tout à l'heure. Moi, je ne sais pas le nom du personnage, parce que vous avez bien joué le collectif. Effectivement, il y a une jeune fille qui parle de son avenir aussi, justement. Et c'est l'extrait donc, qu'on a choisi pour qu'on montre le dernier extrait On montre que sur ce chantier, en fait, il y a des gros liens qui ont dû se créer, parce qu'on ne fait pas un chantier pendant 2 ans comme ça, sans qu'il se passe rien. Et l'avenir, ben, c'est pour faire un apprentissage. Donc, je ne sais pas le nom, peut-être le donner.
Je pense que c'est Lara.
Lara, oui.
Mais elle n'est pas la seule, en fait. Ça a créé plusieurs vocations.
Il y en a plein.
Femmes qui ont trouvé leur chemin dans le bâtiment. Ça peut être en charpente, ça peut être en électricité.
C'est 2,8%, c'est ça le chiffre qu'il donne à la fin. Tu l'écris... C'est encore un...
Oui, 2,8% de femmes dans les métiers du bâtiment.
Artisanes.
Sans compter l'administratif.
Oui, je le dis. Donc le dernier extrait des enchantières.
Moi, j'hésite à me lancer dans un bac pro l'année prochaine. Mais 12 ans, ça me paraît long. Je sais pas si je suis prête.
Alors, tu peux prendre un domaine que t'as pas eu.
Si t'as jamais fait de charpente, tu peux faire charpente. Parce que toi, t'as fait un CAP de menuisière.
Et ben, tu peux faire charpente.
Du coup, il faut que je trouve un financement pour une formation Greta.
Oui, mais le Pôle emploi, ils peuvent te la payer.
Elle prendra en charge.
Si tu veux faire le tube.
Non, oui, justement. Et moi, quand j'étais à l'NPE, ils m'ont dit, la meuf, elle m'a dit, ah, c'est bien votre projet. C'était ma première formation d'élect. Elle m'a dit, ouais, c'est bien, mais c'est trop tard. Vous auriez été dans les années 80, il y avait un potentiel pour les femmes, mais là, c'est mort, c'est même pas la peine de faire. D'accord, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais y aller quand même, ça vous dérange pas.
Combien t'as la longueur? Ça, c'était la longueur que j'ai utilisée.
La grande longueur?
J'ai trouvé ce que j'ai fait. Ouais.
15 mètres 15 540.
Et là j'ai 15 451. On avait mesuré 540, c'est plus grand.
Oui, parce qu'il y a des coulisses en plus.
Ah oui, j'ai une paire de coulisses en plus. Oui, donc il faut que je trouve le plan que j'avais mis au propre parce que c'est ça.
On le ferait en fonction. Hein.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Et on n'a pas écouté le dernier extrait de ton film. Vous étiez bien parti, c'est dommage, dans les off. En fait, c'est là que vous discutez le plus. Généralement, c'est quand on écoute les extraits que vous êtes bien parti. Et on se posait la question du politique, justement, quand les politiques... Anne, vas-y, pour...
Voilà, cet extrait qui montrait aussi la façon dont tu filmais les agora, enfin les conseils qui ont lieu mensuellement dans cet amphithéâtre. On en a choisi un qui pose la question de l'avenue des politiques et de leur place. Et c'est vrai que, branle-bas de combat, tout d'un coup, Hollande annonce sa venue. C'est qui d'autres?
Nicolas
Hulot, et il y a même Édouard Philippe. Voilà.
Vous le chantiez, il n'y a pas eu de reprise politique dessus.
Ça n'eût pas été possible, je crois.
Une grande méfiance.
Voilà. Et donc, là, dans cette séquence qu'on va écouter, Lounès, dans la foulée, il y a effectivement ce débat collectif de qu'est-ce qu'on fait, en quoi ces politiques sont notre soutien ou au contraire nos ennemis. Et voilà. Et comment on règle ça en essayant d'être vraiment tous d'accord.
Moi, personnellement, je suis épaté, ébahi, ému quand je viens ici. À chaque fois, ce qui se passe ici, ça échappe à tout le monde. Cette espèce de coloration expérimentale, participante.
Il y a ces trois sphères, les travailleurs du site, on va dire, ceux qui travaillent sur le site, vous, les artisans, les artistes, les associations, les entreprises.
Allez, on y va.
C'est pas d'inviter des politiques et de les écouter parler. L'idée, c'est nous de leur poser des questions, déjà de les interpeller nous sur des questions qui nous intéressent et de les laisser réagir, mais aussi d'avoir tout un tas de gens qui sont extérieurs au site qui puissent venir s'exprimer.
Moi, je suis tout à fait favorable à Mademoiselle, ce qu'elle a proposé, c'est-à-dire de les faire venir non pas pour les écouter, mais de les faire venir pour les questionner, pour les mettre en péril. C'est-à-dire, moi, j'imagine bien tous les représentants de ces partis à votre place en bas et nous qui posons des questions, qui demandons pourquoi. En 95, vous avez dit ça, alors qu'en 2000, vous avez dit ça.
Je trouve ça hyper naïf de vraiment croire qu'ils vont parler des sujets que vous voulez. Enfin, c'est des politiques. C'est des politiques. Ils vont venir faire leur cirque.
Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas leur faire sortir le verre du nez en leur demandant. Ils vont nous dire d'accord. Oui, ce que vous faites est super, magnifique et tout. Mais demain, ils tournent leur veste. Et ils vont nous dire que ce n'est pas le veste qui tourne, c'est le vent qui tourne.
La volonté politique. Elle a du bon aussi parfois. Par exemple, notre présence ici, elle a comme source une volonté politique. Si le politique n'avait pas voulu que les grands voisins existent, ils n'existeraient pas.
Nous, notre but, c'est pas de parler d'une voix, de dire voilà, qu'est-ce que vous pensez des grands voisins, mais on vient juste utiliser les grands voisins comme une tribune pour pouvoir nous interroger en tant que citoyens.
Allez, on vote.
On vote.
Allez.
Qui est pour?
Non, moi, je pense qu'on voit que c'est un débat qui suscite beaucoup d'interrogations. Moi, je propose qu'on puisse continuer à avancer cette réflexion. On est d'accord sur la base, sur le fait qu'on ne veut pas d'instrumentalisation. On veut ouvrir un espace de débat, c'est déjà une bonne base. Il y a aussi beaucoup de voisins qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'au prochain Conseil des voisins, dans un mois et demi, on repasse un vote.
Radio Libertaire 89.4, dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet, qui arrive à sa fin. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, on n'aura pas le temps de développer plus et on sera un peu frustré. Mais donc, on a quand même pas mal abordé de sujets entre nous. Et j'espère que ça vous a donné envie de voir les films.
D'ailleurs, où peut-on les voir ?
Et du coup, la question qu'on vous pose là, c'est où est-ce qu'on peut voir vos films ?
Alors, De Rêve et de Parpaing, on espère pouvoir le montrer bientôt en salle, en mars ou en avril. Donc, on n'a pas encore de date précise. Voilà, mais ça sera possible de le voir à ce moment-là. Et plus tard sur Internet, mais pour l'instant, on ne peut pas.
Il participe à des festivals, non ?
Alors, il est inscrit dans plusieurs festivals. Il a participé, il était au festival d'Arcueil qui s'appelle Femmes en Résistance, déjà. Et puis, on attend des réponses pour d'autres festivals. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas ces réponses.
Bon, souhaite bonne chance.
Alors, pour les grands voisins, La Cité Rêvée, donc, le film a déjà fait son petit tour entre 2020 et 2023 au cinéma et en ligne, parce qu'il était passé pendant le confinement, sur un dispositif un peu spécial. Et on peut le retrouver en VOD, donc en tapant Les Grands Voisins, La Cité Rêvée sur Internet. On peut tomber sur différentes plateformes, mais la meilleure reste, je sais pas si j'ai le droit de dire, Vimeo. Vimeo, c'est le prix d'un demi de bière. Voilà. C'est pas cher.
Bon, on en profite pour l'agenda, du coup.
Oui, il me semble qu'on peut quand même se donner encore 2 minutes.
Si tu veux, parce que sur la production, c'est des films qui ont coûté cher, qui n'ont pas coûté cher. Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que vous avez vraiment porté à bout de bras ?
Et puis l'histoire du politique et de la façon de ne pas se faire récupérer. Donc là, on comprend quand même dans l'extrait qu'on a entendu juste avant que c'est un vrai débat au sein du collectif. Et que du coup, on repousse à plus tard la décision. Et puis bon, on verra dans le film que oui, les politiques viennent se promener sur le site et que évidemment, ça change sans doute pas grand-chose. Mais il y a quand même une vraie différence dans ce projet-là, du fait que la mairie de Paris, il y a quand même des moyens et en tout cas une volonté, c'est autorisé. Alors par contre, c'est éphémère. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait la même chose que les squats d'artistes ou même les ZAD ou certaines occupations qui vraiment peuvent se terminer de manière terrible. Voilà, il y a quand même il faut jouer le jeu. En quoi jouer le jeu est quand même positif ? Qu'est-ce que ça amène ?
Mais ça, c'était la question politique du site et de ce lien un peu assez restreint avec les politiques. C'est revenu souvent sur le tapis. Mais de toute façon, comme on l'entend dans l'extrait, Les Grands Voisins est né d'une volonté politique. De toute façon, c'est la mairie du 14e arrondissement, c'est Karine Petit qui décide de reprendre ce site avec les 3 associations que j'ai citées avant, pour que les personnes en hébergement d'urgence et le quartier qui est autour ne deviennent pas une sorte de mouroir. Voilà. Donc, il y a déjà cette base politique. Et puis après, il y a une récupération politique parce que Les Grands Voisins, ça a été extrêmement médiatisé. Je pense que les médias de Paris, tous les médias sont passés par là. Et donc, ça fait un peu gling-gling au-dessus, là. Et donc, on les a vus passer, effectivement, les uns après les autres, au bout d'un moment, pour des questions liées soit aux élections ou du monde associatif. Et voilà, ils venaient faire leur petit speech avec les médias. Et on avait plus ou moins notre mot à dire là-dessus. Des fois, ils venaient un peu même en catimini. On ne savait pas que... Enfin, voilà, c'était tout un peu un beans. Et que je me suis, amusé à récupérer et à filmer comme un parfait journaliste pourrait le faire, à les suivre, mais à capter les petites paroles.
Avec la lettre qui est glissée pour avoir
les papiers. Elle qui essaye d'avoir ses papiers depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui donne une petite
directement
lettre.
Directement, sa lettre.
Mais, voilà.
Alors que vous, les enchantières, il y a vraiment une notion d'autonomie.
Oui. Oui, oui, il y a même une veille extrême à ne pas être récupérée et à garder la main en fait sur tous les discours qui peuvent être tenus sur l'association et le projet des enchantières, quoi.
C'est aussi pour ça qu'elles voulaient pas de film au départ. Elles sont extrêmement vigilantes à la représentation qu'on peut donner d'elles. Et elles refusent souvent. Elles ont été extrêmement sollicitées
par la presse. Et elles ont dit non. Elles ont toujours dit non.
Parce que vous êtes des enchantières, en fait. C'est pour ça qu'elles vous ont dit oui.
Bah, elles nous ont fait confiance.
Oui, voilà, voilà. Donc, quand on parlait de films qui étaient compliqués, longs à porter et tout ça, au niveau de la production, comment vous vous êtes débrouillée, par contre?
Moi, j'ai failli mourir 3 fois. non, c'est 3-4 années d'intense travail, vraiment très intense travail. Moi, je suis par ailleurs enseignante, j'enseigne le cinéma à des adolescents, et donc j'ai mené tout en parallèle, et c'est vrai que c'était très dense, et en même temps, j'étais totalement passionnée, j'aurais pas pu faire autrement, quoi.
Porter.
Oui, mais c'est vrai que c'était très long. Enfin, trouver des productions qui nous fassent confiance, et puis en plus on a trouvé quelqu'un qui après finalement s'est retiré.
C'est
le
film, c'est ça.
Bah d'abord on avait trouvé une productrice qui finalement nous a lâché, et puis après quand on a rencontré les filmeuses, c'était une joie parce qu'elles sont géniales, elles nous ont vraiment énormément aidé et bien accompagné, quoi.
Ça. Et oui, et ça continue parce qu'elles sont également distributrices, donc. On continue avec les filmeuses, ouais. Et puis les filmeuses, c'est joli, ça nous va bien.
Ouais.
Et voilà, malheureusement, nous arrivons au terme de l'émission. Je vais enchaîner avec notre traditionnel agenda documentaire de l'association ADOC. Donc ce mois-ci, janvier 2024, les samedis d'ADOC reprennent au cinéma Luminor. C'est toujours à 11h dans ce cinéma. Le samedi 13 janvier, avec le film Retour à Visegrad de Julie Biro et Antoine Jacou. C'est 25 ans après la guerre de Bosnie. Deux enseignants retraités prennent la route pour retrouver les élèves d'une classe de l'école de Visegrad. Serbes ou musulmans, et surtout voisins et camarades de jeu, les enfants ont été séparés au printemps 92 et ne se sont jamais revus depuis. C'est une sacrée histoire. Une projection qui va être suivie d'un débat, comme d'habitude, après nos samedis d'ADOC. Et le 27 janvier, ce sera le film de Marina Dehak, Navire Europe, qui filme sa grand-mère, une femme admirable, une rescapée, une femme terrible, volonté impérieuse de la survie. Je refusais de la filmer, je ne voulais pas entendre parler de mort, je ne voulais pas de la survie, je voulais la vie, je voulais être libre, je ne la filmerai pas jamais. Et puis au dernier moment, je l'ai filmée. Elle est très très belle, ce personnage de grand-mère. Elle fait réfléchir aussi. Le samedi 13 janvier, à partir de 16h30, salle Gendarme, 17 rue Léopold Bélan, le film de Daniel Kupferstein qui sort tout juste, Béziers, l'envers du décor. Construit en 2 parties, le film aborde à travers le journal municipal, le journal de Béziers, devenu le journal du Biterrois, la gestion de la ville par Robert Ménard, élu maire en 2014 avec les voix du Front National. En partant à la rencontre des habitantes et de militantes, nous découvrons l'envers du décor de cette ville du sud de la France. Un débat ensuite avec des personnes de la Ligue des droits de l'homme, de Visa, d'Acrimed, qui promet d'être chaud. La Cinémathèque du documentaire, du 10 janvier au 16 mars 2024 au Centre Pompidou, c'est un hommage à Stéphane Mercurio qui est intitulé « La parole aux invisibles ». Et donc beaucoup de ces films vont être programmés, et vraiment c'est très intéressant de suivre l'œuvre de cette cinéaste. Stéphane, c'est une fille qui a été adocienne, qui est une amie et qui fait des très très beaux films. Vous avez sinon aussi les dimanches de Varan, de 10h à 14h, aux ateliers Varan, 6 impasse Montlouis, dans le 11e. C'est ce cycle de réflexion autour du cinéma, réunit des penseurs, des cinéastes, des programmateurs, autour d'extraits de films, ou quelquefois de films entiers. Et c'est presque tous les dimanches, pas toujours tous les dimanches, mais le prochain, le 14 janvier, en Iran, filmer la révolution pendant la révolution. Et puis il y en aura un le 21 janvier sur un maître oublié du court-métrage d'art, Carlos Villar de Bo. Et le 28 janvier, politique des regards coloniaux et décoloniaux. Quelque chose que vous pouvez écouter en ligne sur le site d'Adoc et je vous le conseille parce que ça a été un moment vraiment très très intéressant et intense. C'est notre dernière web rencontre proposée par Adoc. Ça s'est passé le 7 décembre lors de la 7e édition des Pitch et avec pour titre « La précarité est-elle un choix ?» Comme nous ne cessons de le dire, les conditions de travail des auteurs, autoristes, réalisateurs, auteuristes de documentaires se dégradent. La liberté aurait un prix, deux points, la précarité, point d'exclamation. Pour comprendre ce qui nous arrive, réfléchir à d'autres modèles économiques, esquisser des solutions, nous avions invité Aurélien Catin, co-rédacteur de la proposition de loi sur un revenu de remplacement, Bernard Friot, inventeur du concept de salaire à vie, sociologue et économiste, et Samuel Churin, bien connu des intermittents et des précaires. Cette rencontre a été filmée et donc vous pouvez la retrouver sur le site d'Adoc. Je vais abréger parce qu'il est l'heure. Donc le nouveau dispositif Indocu près de chez vous, notre librairie en ligne d'Adoc et parallèlement la revue documentaire qui vient de sortir son numéro 33 sur la question de programmer. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site. Sur notre site
d'Adoc.
A2DOC. Adoc.net. A2DOC.net.
Nous, on se quitte sur la peinture à l'huile parce qu'on va parler dans la prochaine émission de peinture, il me semble. Donc, Bobby Lapointe, et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.
Voilà, sauf que je ne sais pas si Michel nous laisse encore un morceau de musique, là. Non ?
C'est très cruel.
Donc, sans peinture à l'huile, Michel, mais de la peinture tout court.
Michel qui prend le relais, qui est déjà en régie pour son mélange, que vous attendez tous impatiemment, va vous faire écouter de la musique.
Ben on va se commencer un mélange à 17h01, ici même sur Radio Libertaire 89.4 FM, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Le numéro de téléphone du studio, le 01 43 71 89 40, et on va commencer avec un des anniversaires du jour, la chanteuse anglaise Sandy Denny, ici d'un album de 1970, par son autre groupe, Fotheringay, et ça c'est la mer. La mer, the sea.
assaulting your senses? Can you feel?